Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nous nous retrouvons donc ce soir pour la suite du roman de Alice Zeniter, L'art de perdre. Youssef est toujours en train de monter et de descendre la montagne, entre le village et la ville, toujours en train de s'enquérir d'un bus ou d'une charrette qui irait à tel ou tel endroit, toujours en train de dire que c'est urgent, que c'est pour le travail. Mais malgré son agitation, Youssef n'a jamais un sou en poche. « Si j'étais payé à l'heure, dit-il souvent, je serais millionnaire. » Comme les hommes se moquent ses efforts sans gain, il préfère la compagnie des enfants qu'il l'idolâtre. Ce jour-là, tête penchée, protégeant l'intérieur du cercle, les garçons forment à la fois la salle dans laquelle Youssef se produit et le public qu'il charme. Alice se demande ce qu'ils peuvent bien dissimuler derrière leur petit corps. Peut-être qu'ils fument des cigarettes. Il arrive que Youssef leur en donne. Un jour, Hamza l'a battu à coups de canne parce que Omar était rentré à la maison en sentant le tabac. Ali s'approche pour vérifier. Les garçons s'écartent aussitôt mais ne s'enfuient pas. Ils aiment bien Ali. Et ses poches toujours pleines. Il s'écarte, tout simplement parce que la présence d'un adulte rompt l'existence du cercle qui n'est un cercle que de garçons. Tient par la magie de l'enfance et s'effondre quand les grands veulent s'approcher. Parfois cela serre le cœur d'Ali, parfois cela serrera le cœur de Hamid, cette frontière qu'on ne peut franchir qu'une fois dans un seul sens. « Qu'est-ce que vous regardez ? » demande-t-il. Omar, son neveu, lui montre la petite photographie qu'il se passait de main en main. Dessus se trouve un homme à longue barbe, en costume européen, recouvert d'un burnou. Il porte un fez qui doit être rouge, mais qui, sur la photographie en noir et blanc, paraît plus sombre encore que ses sourcils. Omar tend la photo au creux de sa paume, comme s'il s'agissait d'une relique ou d'un oiseau blessé. Youssef le regarde faire en souriant. Ses dents de devant sont trop écartées et c'est par cette fente qu'il recrache la fumée de sa cigarette. Quand il relève les yeux vers Ali, celui-ci voit le défi qui s'y cache mal. « Tu sais qui c'est ?» demande Omar. Ali hoche la tête. « C'est Messali Hadj. » Youssef dit qu'il est le père de notre nation, annonce fièrement l'un des garçons. « Ah bon ? Et qu'est-ce qu'il dit d'autre, Youssef ?» L'adolescent ne proteste pas devant cet interrogatoire détourné. Il laisse les petits répondre. Il dit que s'il pouvait, il irait se former en Égypte pour rejoindre la rébellion algérienne, déclare un des Amrouches avec beaucoup d'admiration. « Et toi, tu sais où c'est l'Égypte ? » demande Ali. Dans la seconde qui suit, 10 bras se lèvent et pointent des directions différentes. « Espèce d'âne !» dit Ali avec tendresse. Il rend la photographie aux enfants et s'éloigne sans rien ajouter. Dans son dos, Youssef l'interpelle. « Mon oncle !» C'est l'appellation respectueuse que l'on destine aux aînés dans cette société où la famille représente le plus noble degré du lien et où la hiérarchie verticale des colons, marquée quant à elle par la répétition des « Sidi, mon maître », n'est pas encore parvenue à s'imposer. Ali se retourne. L'indépendance, ce n'est pas juste un rêve pour les enfants, tu sais, lance Youssef. Même les Américains ont dit que tous les peuples devaient être libres. Bah, c'est loin l'Amérique, répond Ali, après un temps de réflexion. Toi, même pour aller à Palestro, tu dois me demander de l'argent. C'est vrai, mon oncle, c'est vrai. D'ailleurs, tu ne peux pas m'emmener demain par hasard. Ali lui sourit. Il ne peut pas s'en empêcher. Il aime bien l'adolescent, peut-être tout simplement parce que les âmes rouches ne l'aiment pas. Peut-être parce que Youssef a une forme de bravoure joyeuse que sa misère de fils de veuve n'a jamais réussi à briser. Ali se dit que cet automne, au moment de la récolte, il lui proposera de participer à la cueillette ou de s'occuper d'un des pressoirs. Il faudra simplement qu'il fasse attention à ce que le garçon n'approche pas trop les femmes. Sa langue bien pendue offense souvent les maris, les pères et les frères. S'il s'en est tiré chaque fois à bon compte, c'est que tous ont pitié de sa mère. Elle, dès que son nom est prononcé, quelqu'un ajoute « la pauvre ». C'est presque devenu la manière habituelle de la désigner dans le village, « Fatima la pauvre ». Le soir, au dîner qui réunit les familles d'Ali, Hamza et Jamel autour du couscous, Omar demande aux hommes s'ils aiment Messali Hadji. Il dit aimer, il ne dit pas soutenir, ni être d'accord avec. Il ne comprend pas encore ce qu'est un meneur politique, il ne voit que la figure du père. Non, dit Ali sèchement. Le cœur d'Omar se serre, car la réponse de son oncle creuse entre Youssef et lui un fossé qui pourra affecter sa place dans la bande des garçons. Youssef est le plus âgé et Omar le plus jeune. Youssef tolère donc Omar. S'il changeait d'avis, Omar devrait rester à la maison avec Hamid, qui n'est encore qu'un bébé, et tenter de lui apprendre des jeux que le petit abétit sans cesse. Omar est triste car tout à l'heure, Youssef lui a donné la photographie et il l'a cachée dans sa ceinture. Mais il sait désormais qu'il ne pourra plus voir le portrait de Messali Hadji sans penser à la réponse de son oncle et que la photo sera donc toujours entachée par ce « non », comme s'il était désormais écrit au travers de la figure du vieil homme aux yeux de prophète courroucé. « Pourquoi ?» demande-t-il timidement. « Parce que Messali Hadji n'aime pas les Kabyles. » Ali dit aussi aimer, il ne dit pas soutenir le mouvement, encourager les régionalismes, approuver les revendications. Pour lui, l'indépendance de l'Algérie, ça veut dire qu'on deviendra tous arabes. Omar hoche la tête en faisant semblant de comprendre. Pourtant, dans cette famille largement arabophone, seules les femmes n'ont recours qu'aux Kabyles. Et dans cette phrase qu'Ali vient d'ailleurs de prononcer en arabe, il ne voit aucune raison de partager sur le champ l'indignation de son oncle. Il regarde avec perplexité les adultes qui acquiescent tous à ses paroles, même les femmes qui, debout, font passer les plats. Le petit garçon compte de longues secondes avant d'oser demander « Et qu'est-ce qu'on a contre les Arabes ?» Autant en être sûr. Ils ne nous comprennent pas, dit Ali, avant de se tourner vers son frère pour parler avec lui de la prochaine récolte. Omar, qui ne les comprend pas non plus, s'endort avec au ventre la peur que cela veuille dire qu'il est arabe. Depuis 1949, Ali est le vice-président de l'Association des anciens combattants à Palestro. Cela ne veut pas dire grand-chose et il ne s'y passe presque rien. L'association est avant tout un espace, une salle que l'administration française a mise à leur disposition. Parfois, elle est vide. Parfois, quelques hommes s'y retrouvent. Ils jouent aux cartes, aux dominos, s'échangent des nouvelles. Parfois, ils viennent avec leurs médailles. Dans cet espace-là, elles ont une valeur. Là-haut, sur la crête, cela impressionne peut-être les enfants qui aiment tout ce qui brille, mais personne ne sait ce que signifie chaque ornement de métal, chaque ruban. Pour Ali, c'est une bonne raison de ne pas remonter tout de suite sur la montagne lorsqu'il a fini son travail dans la vallée. Travail de représentation, travail noble. Il n'y a jamais emmené ses frères ou ses neveux, pas encore son fils. L'association n'appartient qu'à lui et à ceux qui ont combattu. Ce n'est pas une chose que l'on partage avec sa famille. Dans le calme de cet espace qui n'est qu'à eux, ils boivent de l'anisette. C'est une habitude que beaucoup ont ramenée de l'armée. Avant 1943, Ali n'avait jamais bu d'alcool. Il a commencé en Italie lors de la bataille dont on ne parle jamais. Et c'est ce qu'il aime ici. Il n'a pas besoin d'en parler pour qu'elle existe. Cela a commencé comme une forme de protestation un peu absurde. Si l'armée exigeait que les soldats venus d'Afrique du Nord mangent le porc contenu dans les rations fournies par les Américains, alors elle devait aussi leur donner le droit aux rations de vin dont ils étaient jusque-là privés. Ali se souvient d'avoir suivi les meneurs qui avaient lancé cette revendication parce que c'était des gars qu'il aimait bien. Et lorsque celle-ci avait abouti, il s'était trouvé comme un idiot devant un verre plein. Alors il l'avait bu, en grimaçant, et en pensant que c'était moins de l'alcool que de l'égalité. Plus tard, quand ils sont arrivés dans l'est de la France, il y avait des bouteilles cachées par les paysans dans les fermes abandonnées où ils établissaient leur campement, et surtout, il y avait ce froid insidieux qui les rendait nécessaires. Ali a continué à boire. Même son retour en terre de soleil et l'islam n'a pas pu lui ôter le goût de l'alcool. Il sait que Yema n'aime pas ça, alors il boit uniquement à l'association, une fois par semaine, par petites gorgées coupables et délicieuses. Certains, plus amochés que lui, se rabattent sur l'alcool à brûler quand il n'y a plus d'anisette. Il ne voit pas le problème, c'est moins cher et ça enivre tout pareil. Il faut être un roumi pour penser que l'alcool est un plaisir raffiné. L'une des explications étymologiques du mot bougnoul le fait remonter à l'expression bougnoul, le père lagnoul, le père bouteille, un terme méprisant employé à l'égard des alcooliques. Une autre la lie à l'injonction à bougnoul. Apporte l'agneau, utilisée par les soldats maghrébins lors de la Première Guerre mondiale et reprise comme sobriquet par les Français. Si cette étymologie-là est juste, alors dans la salle qui leur est prêtée, Ali et ses compagnons font joyeusement, quoique discrètement, les bougnoules. Mais en faisant les bougnoules, ils imitent en réalité les Français.
Your eyes just yet. I wouldn't turn the lights down yet. 'Cause the things you've gotta see. The things you've gotta believe of me. Dials not yet. you've got to believe in me.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Alice Zeniter, l'art de perdre. À l'association, il y a deux générations qui se croisent mais ne se confondent pas, celle de la Première Guerre et celle de la Seconde. Les vieux de 14-18 ont vécu une guerre de position et les plus jeunes une guerre de mouvement. Ils ont avancé si vite qu'entre 1943 et 1945, ils ont traversé l'Europe, France, Italie, Allemagne. Ils ont été partout. Ceux d'avant ont vécu enterrés dans une tranchée pendant de longs mois avant de prendre place dans une autre. Rien ne se ressemble plus que deux tranchées. Des vieux voudraient que les jeunes reconnaissent que leur guerre était la pire, c'est-à-dire en réalité la meilleure. Les jeunes se désintéressent des histoires de boue et de Flandre. Ils leur préfèrent les chars et les avions. Et puis les Allemands n'étaient pas vraiment les Allemands avant de devenir nazis. Guillaume II, ce n'est pas Hitler. Entre les deux groupes s'est établie une certaine distance faite d'incompréhension mutuelle et de compétition. Ils sont aimables les uns envers les autres, mais ils communiquent peu. Parfois, un Première Guerre et un Seconde Guerre se retrouvent seuls dans l'association et il y a un moment de gêne très léger, mais indéniable, comme si l'un des deux s'était trompé de porte. Le président de l'association, c'est un vieux de la première, Ackley. Pour que les deux générations se sentent également représentées et honorées, il est apparu comme une évidence que le vice-président devait être un homme de la seconde. C'est Ali qui a été élu. Ackley et Ali, ça sonnait bien. Le plus souvent, ils s'appellent mon fils et mon oncle. Mais quand ils veulent faire les malins sur la place publique, ils s'appellent président, monsieur le vice-président. Ça les fait rire. Les grades de l'armée, ils les respectent comme des cicatrices sur le corps d'un soldat. Mais ces titres de civil, ça ne veut rien dire. Des petits bijoux sur une femme laide, plaisante le vieux Ackley. Un des autres avantages de l'association pour Ali, c'est que la petite salle vibre d'informations que l'on n'entend jamais au village. Là-haut, il n'y a pas de poste radio à part le sien et la plupart des montagnards sont, comme lui, analphabètes. En bas, dans la vallée, les nouvelles circulent. À l'association, il y a des hommes qui savent lire et écrire, qui apportent des journaux pour les commenter. Ali trouve ici un bulletin d'information nationale que le village est bien incapable de lui fournir. C'est à l'association qu'il entend parler des attaques du 1er novembre 1954 et pour la première fois du FLN. Ce jour-là, même les différentes antennes des membres de l'association ne sont pas suffisantes pour relayer des informations fiables. On ne sait pas d'où sortent ces hommes au juste, ni les moyens dont ils disposent. On ne sait pas bien où ils se cachent. Leur lien avec des figures déjà connues du nationalisme, comme Messali Hadji ou Ferhat Abbas, sont flous pour tous les anciens combattants. Ils appartiendraient à une troisième ligne, mais ce qui différencie celle-ci des deux autres n'est clair pour personne. Une chose est sûre, quoi qu'il en soit, ça a pété. Les mieux informés parlent de dizaines d'attentats à la bombe et à la mitraillette contre des casernes, des gendarmeries, une station radio, les pétroles moris. Il raconte que les fermes de certains colons ont brûlé, ainsi que les dépôts de liège et de tabac de Borje Menayel. Ils ont aussi tué le garde-champêtre de Drahel Nizan. « Lui, c'est bien fait !» dit Mohand. Personne ne défend le garde-champêtre, sa fonction est honni. Avant que les Français ne tentent de faire des forêts un domaine public, comme en métropole, elles constituaient pour les familles une réserve de bois que tous se partageaient, un terrain pour les bêtes. Maintenant, la coupe et le pâturage sauvage sont interdits, ce qui veut dire concrètement qu'ils continuent à se pratiquer, mais sont passibles de sanctions. Personne n'aime à voir surgir les gardes champêtres qui surveillent les forêts et font pleuvoir les amendes, dont on sait qu'une partie restera dans leur poche. Personne ici ne comprend à vrai dire pourquoi les Français ont tenu à devenir maîtres des pins et des cèdres, si ce n'est par un excès d'orgueil qui leur paraît ridicule. Kamel a entendu dire, et cette information les arrête tous un instant, les touches au même endroit dont j'ignore l'emplacement, mais qui se cachent peut-être juste à côté du foie, organe majeur dans la langue kabyle. Cette information les atteint à l'endroit de l'honneur. Honneur de l'homme, honneur du guerrier qui bien souvent se confondent. Que les auteurs des attaques ont tué une jeune femme, l'épouse d'un instituteur français, tombé lui aussi sous les balles. « Tu es sûr de ce que tu racontes ?» demande Ali.
« Je ne suis sûr de rien !» répond Kamel.
Ils se taisent de nouveau, se frottent pensivement la barbe de la paume de leurs mains. Tuer une femme, c'est grave. Il existe un code ancestral qui veut que l'on ne fasse la guerre que pour protéger sa demeure, c'est-à-dire la femme qui s'y trouve, dont la maison est le royaume, le sanctuaire du monde extérieur. L'honneur d'un homme se mesure à sa capacité à tenir les autres à l'écart de sa maison et de sa femme. La guerre, en d'autres termes, se fait uniquement pour éviter que la guerre ne passe la porte du chez-soi. La guerre se fait entre les forts, les actifs, les sujets, les hommes, uniquement les hommes. Combien de fois se sont-ils plaints des insultes que leur faisaient les Français, parfois involontairement, en entrant chez un kabyle sans y être invité, en parlant à son épouse, en lui confiant des messages à transmettre qui traitaient d'affaires, de politiques ou de questions militaires, tout domaine qui ne peuvent que salir la femme et la traîner symboliquement hors de la maison. Pourquoi le FLN commet-il les mêmes affronts ? Bien sûr, ils peuvent admettre que dans la précipitation, des erreurs se produisent. Mais se déclarer publiquement par des attentats qui coûtent leur vie aux faibles, c'est de mauvais augure. Si c'est un choix de leur part, alors je voudrais qu'ils m'expliquent, dit le vieux Akli. Et si c'est une bourde ? Alors j'ai peur que ces gars-là soient des ânes. »
Il hoche la tête. Ils sont tous plus ou moins d'accord ce jour-là. Ils aimeraient qu'on leur explique un peu plus.
« Et qu'est-ce qui va arriver maintenant, à votre avis ?» demande Kamel.
« Il va se passer ce qui est déjà écrit, » pense Ali, « même si cela ne présage rien de bon.
Personne ici n'ignore ce qui s'abat quand la France se met en colère. »
L'autorité coloniale a veillé à ce que sa puissance punitive marque les mémoires. En mai 1945, lorsque la manifestation de Sétif a tourné au bain de sang, le général Duval, capable de mesurer son propre impact sur la population, a déclaré au gouvernement « Je vous ai donné 10 ans de paix ».
Au moment où la région de Constantinois sombrait dans le chaos et les cris, certains des hommes de l'association défilaient sur les Champs-Élysées à grand éclat de cuivre. Sur la large avenue parisienne, ils paradaient, avançaient à pas rythmés en héros de la patrie. Les femmes agitaient les mains et les mouchoirs.
À Sétif, les corps troués étaient alignés sur les bords de route et comptés par l'armée française qui refuserait toujours d'en donner le nombre exact. Ils n'ont pas oublié.
Sétif, c'est le nom d'un ogre terrifiant qui rôde toujours trop proche, dans un manteau à l'odeur de poudre et aux pans ensanglantés.
Du massacre, aujourd'hui, il ne reste apparemment qu'une unique vidéo montrée par Barbet Schroeder dans son documentaire sur Jacques Vergès, l'avocat de la terreur. Ce sont presque des images abstraites, taches blanches et noires en mouvement qui se recouvrent et s'avalent et parfois l'on y devine des visages humains, les carrés blancs sur fond blanc, des pancartes brandies contre des murs immaculés de chaux, un homme, droit debout, le triangle que forme son burnous sur sa poitrine. Mais surtout, il y a le son, voix, bruit de pas, slogan scandé et you-you, puis les coups de feu. Alors l'image bascule dans le noir complet. On ne voit plus rien, il n'y a plus personne, mais le son continue, mitraillette qui ne s'arrête jamais, et même... Mais qu'est-ce que j'y connais, au loin ? Le fracas des tirs de mortier.
Ali sort de l'association et se dirige vers la boutique de Claude. Dans la vallée, il y a des clients français, peu, mais quelques-uns. Ce sont des hommes qui sont venus à l'association parce qu'ils sont eux-mêmes d'anciens combattants. La plupart ont leur propre structure, ils ne se mêlent pas à ceux qu'ils appellent les indigènes, les musulmans, les arabes ou parfois les bicots. Certains, cependant, passent la porte... parce qu'ils cherchent à retrouver quelqu'un, un soldat qui a combattu avec eux sous leurs ordres, ou tout simplement parce qu'ils veulent parler un peu.
Claude fait partie de ceux-là. Il a servi dans l'armée d'Afrique, l'armée B, comme on l'appelait alors qu'elle débarquait en Provence. Il aime raconter qu'il a vu la métropole pour la première fois à l'occasion de l'opération Dragoon.
C'est un petit mensonge, mais cela lui permet d'insister sur l'important. Il se considère comme algérien.
Claude tient une épicerie à Palestro et quand il a compris qu'Ali était dans le commerce de l'olive, il lui a demandé d'apporter sa production pour goûter.
C'est un des rares Français qu'Ali connaisse qui ne préfère pas acheter aux colons par principe.
Claude a conservé dans son allure quelque chose d'enfantin qui attire immédiatement la sympathie. Il est... de petite taille, vif et volubile. Il traîne ses pieds en baissant la tête lorsque quelque chose le blesse et quand il est joyeux, son sourire lui prend toute la face comme si une large main lui malaxait le visage.
Voilà donc pour ce soir la suite de ce texte de Alice Zénitaire, L'art de perdre, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.